Bien, je crois qu'on peut commencer, on me fait signe. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre avec Yves Bosson, donc en l'occurrence avec votre serviteur, autour d'un livre qui s'appelle Le Dictionnaire visuel des mondes extraterrestres, que j'ai signé avec Farid Abdelwahab, mon co-auteur, et qui est paru chez Flammarion en 2010. Dans cet ouvrage, il est très illustré, il y a plus de 300 illustrations. Elles proviennent de l'Agence Martienne, qui est une photothèque que j'anime et qui est spécialisée sur l'imaginaire scientifique et la science-fiction populaire. Dans une deuxième partie tout à l'heure, vous pourrez voir avec ce diaporama une sélection de ces images, parmi les plus intéressantes peut-être. Mais auparavant, je souhaiterais vous présenter un court-métrage, un film qui s'intitule Classification systématique du vivant extraterrestre. C'est un film de Denis Van Werbeck. Il a été produit par Cargo Film, que nous remercions d'ailleurs pour nous avoir autorisé à le présenter tout spécialement dans le cadre des Utopiales. Alors, c'est un merveilleux petit film qui, en fait, introduit extrêmement bien le sujet. Je n'en dis pas plus. C'est parti.
Could there be life similar to our own on other planets? Is it not possible that atmospheric conditions of relative environments control their shapes and forms? If so, would they be giants? Could their intellect have reached a scientific level far above man's dreams? What then will the future reveal?
On connaît bien nos amis extraterrestres parce qu'ils sont nos voisins galactiques, ou parce qu'on en a beaucoup parlé dans nos livres depuis un siècle, ou parce qu'ils sont venus nous voir, ou parce qu'ils ont amené certains d'entre nous chez eux. Chaque jour, on en découvre de nouvelles espèces. Des grands, des petits, des rouges, des verts, des poilus, des visqueux, bref, on ne s'y retrouve plus, il est temps de mettre un peu d'ordre. Voici donc la première classification systématique du vivant extraterrestre. Les extraterrestres se divisent en deux grands groupes. Les morphes qui ont une forme et les amorphes qui n'en ont pas. Passons vite sur cette dernière catégorie dont tous les représentants sont invertébrés, azoaires, asexués, sans caractéristiques particulières, bref, très difficiles à classifier. Comme on peut le voir avec le sous-embranchement des invisibles, qu'on ne distingue les uns des autres que grâce aux différents accessoires qu'ils veulent bien manipuler. Plus courant et plus facilement observable, les extraterrestres morphologiquement déterminés possèdent des organes qui permettent, et c'est l'essentiel, de les ranger dans des catégories scientifiques. On distingue ceux qu'on appelle les anthropomorphes parce qu'ils ressemblent aux humains qui habitent la planète Terre, les zoomorphes parce qu'ils ressemblent aux animaux qui habitent la planète Terre, et les n'importe quoi morphes qui ne ressemblent à rien et qui résistent à l'analyse scientifique. Parmi les zoomorphes, il existe toutes sortes d'espèces rappelant plus ou moins les animaux terrestres, avec une surreprésentation des insectoïdes, des reptiliens, des crustacés et des mollusques. C'est parmi eux qu'on trouve la sous-classe des tentaculaires organico-métalliques qui a eu son heure de gloire dans les années 1900, vu qu'elle a carrément failli dominer la Terre. Il s'en est fallu de peu. Si un certain Herbert George Wells n'avait pas trouvé un dénouement heureux à cette histoire, on était cuit. C'est que les zoomorphes ont la particularité curieuse de développer dans 100% des espèces connues une agressivité haineuse et inconditionnelle à l'égard d'Homo sapiens. Les crustacés semblent parmi les plus agressifs. Avec les dinosauriens, espèces robustes aux mensurations impressionnantes, et qui semblent nourrir une haine particulière contre les immeubles de Tokyo. Alors que l'insectoïde et le tentaculaire, quant à eux, préfèrent s'en prendre à Washington. Mais les extraterrestres les plus nombreux et les plus célèbres appartiennent à l'embranchement des humanoïdes. Stupéfiante coïncidence, l'immense majorité des extraterrestres connus a une forme grosso modo humaine.
He seems like one of us.
Dans l'embranchement des humanoïdes, on distingue ceux qui ressemblent un peu aux humains, ceux qui ressemblent beaucoup et ceux qui ressemblent passionnément. Les premiers sont principalement représentés par la classe des hybrides. Pour faire un hybride, vous prenez une base de bipèdes, deux membres inférieurs destinés à pratiquer la bipédie, et vous mélangez avec diverses espèces généralement répugnantes, avec ou sans bout de métal. Vous ajoutez tout ce que vous voulez, des membres supérieurs, en général également par paire, une ou plusieurs têtes munies d'organes diversement placés, parmi lesquels des yeux, des tentacules, des oreilles, des tentacules, quelques antennes et des tentacules. L'immense variété de la famille des hybrides offre un véritable festival de créatures bipèdes, une zooparade, une biopride. Molluscoïdes à tentacules, à ventouses, insectoïdes à pattes, à ailes, à carapaces, à antennes, technoïdes à membres mécaniques, à blindage, à cadrans électroniques, sans oublier des espèces difficilement descriptibles comme ce martien de 1924, dont les grandes oreilles sont indispensables pour capter les ondes sonores dans une atmosphère raréfiée. Car la grande majorité de ces espèces présentent elles aussi, allez savoir pourquoi, un comportement belliqueux, susceptible, atrabilaire, en un mot, pas fréquentable. La plupart développent aussi la curieuse propension à s'intéresser de préférence, avec une rigueur toute scientifique, aux Homo sapiens de sexe féminin. La situation inverse, l'enlèvement d'une jeune et séduisante extraterrestre par un être humain, est beaucoup plus rare. C'est dans la famille des hybrides que l'on trouve la sous-classe des baveux, ordre des mâchoires rétractiles, qui ne peut se reproduire qu'à l'aide d'Homo sapiens femelles, dont le prénom est Sigourney. Passons à la classe des extraterrestres anthropomorphes qui ressemblent beaucoup aux humains, les humanoïdes humanoïformes ou proto-humains. C'est dans cet embranchement que se situe la quasi-totalité des espèces d'humeur bienveillante. Et donc c'est exclusivement à ces dernières qu'appartiennent les extraterrestres que quelques homo sapiens ont eu l'immense privilège de fréquenter lors de rencontres du troisième type. On ne peut que s'en féliciter car ne serait-ce que pour serrer la main, il est bien plus pratique d'en avoir une à sa disposition.
Serre-moi la main.
La classification des proto-humains se base sur une combinaison de facteurs de taille et de couleur. Passons rapidement sur les grands blancs, êtres luminescents et de grande taille, supérieurement intelligents mais fragiles et dépourvus de sexualité, ils sont en voie de disparition. Ne nous attardons pas non plus sur les petits rouges qui ont eu une éphémère notoriété avant d'être balayés par une autre espèce particulièrement envahissante. Dans les années 50, les exoprimates microtypes à pigmentation chlorophyllienne, autrement appelés petits hommes verts, ont brutalement proliféré et sont devenus des habitués du tourisme terrien. Comme ils utilisaient le mode de propulsion extraterrestre le plus répandu, la soucoupe volante, ces années-là connurent un pic de fréquentation dans le ciel occidental. Par une amusante coïncidence, c'est dans ces mêmes années que le monde communiste menaçait d'envoyer ses aéronefs sur le monde libre. Ce soudain embouteillage des cieux terriens provoqua nombre d'accidents dont la presse de l'époque s'est largement fait l'écho. Lors de l'un de ces accidents, survenu près de la ville de Roswell au Nouveau-Mexique, une de ces soucoupes livra son contenu. Une créature non pas verte, mais grise. L'autopsie pratiquée ne donna pas le résultat de l'alcotest. D'autres cousins à pigmentation grise mais au caractère franchement détestable ont un moment fait parler d'eux sous le nom de petits gris, avec leur sale manie d'envahir la terre en douce. A l'inverse, la sous-famille des gris marronas, apparue en pleine vogue du New Age, brûle d'établir avec l'homme un dialogue constructif et enrichissant. C'est parmi elles que se trouve le plus célèbre et le plus sympathique des extraterrestres, celui qui a converti l'humanité au téléphone portable sous le slogan encore inégalé de...
Des téléphones maison.
Par contre, son modèle de lampe de poche au bout de l'index a fait un bide. Enfin, dernière catégorie, les extraterrestres à taille humaine, à figure humaine. Alors, souvent, quelques détails permettent de reconnaître l'habitant d'une autre planète. Ses oreilles primes sautières, une arthrose chronique de l'auriculaire, ou des verres de contact fantaisie en balles de ping-pong recyclées.
They will spread to every continent and devour every living thing on the surface of the earth.
Mais parfois, le mimétisme humain lié à l'étroitesse du budget de la production pousse à l'extrême la ténuité du dimorphisme. Dans ces familles-là, il ne reste souvent que le costume pour parvenir à les classer. En matière de stylisme extraterrestre, il existe deux grandes tendances, la combinaison moulante et la toge néoclassique.
We come from a world called Zan.
Les porteurs de toge disposent d'une technologie évoluée, entièrement à base de champs de force, de cristal de roche et de coupes à champagne bricolées. Ceux-là ont atteint une puissance illimitée, ce qui n'empêche pas les états d'âme.
But I'm deeply plagued with regret when I'm forced to destroy.
Les porteurs de combinaisons moulantes n'ont rien à leur envier pour ce qui est de l'avance technologique. Mais leurs coupes de cheveux ne sont pas très tendance et ils souffrent d'un singulier manque de savoir-vivre.
Well, hello.
You are alone?
Mais malgré les efforts des chercheurs, seule une toute petite partie de la faune extraterrestre est actuellement connue. Les taxinomistes de demain ne manqueront pas de travail au cours des prochaines années. D'autant plus que l'IT d'aujourd'hui est de plus en plus sophistiqué, souvent tout en 3D. Quelles nouvelles espèces venues d'outre-espace nous visiterons dans les années 2010? On aurait tant envie de répondre une vraie, pour changer.
Voilà, alors effectivement, qui sait si dans un avenir plus ou moins proche, on ne va pas finir par les découvrir, ces fameux extraterrestres, en tout cas, si l'on en juge par le nombre de plus en plus important d'exoplanètes que l'on découvre maintenant, un rythme soutenu, quasiment un rythme quotidien. J'ai vérifié ce matin avant de venir sur un site spécialisé, on en est aujourd'hui à 697 exoplanètes qui ont été donc découvertes depuis 1995. Donc c'est un chiffre déjà très important. Et si je vous dis que par exemple par rapport à la précédente édition des Utopiales, on en a découvert 200 en une année, on voit bien qu'on est à un rythme qui va devenir probablement exponentiel sous peu. Et c'est tellement devenu un rythme soutenu ces découvertes, et bien que la presse n'en parle même plus. C'est devenu banal. Et il faut en fait un site comme celui que j'ai consulté, qui est le site de l'astrophysicien Jean Schneider, qui finalement est le seul à continuer à tenter de les identifier, tellement elles sont devenues nombreuses. Donc dans le petit diaporama que je vous propose maintenant, eh bien, on va voir que si le sujet évoque effectivement la science-fiction, en fait, cette question de la pluralité des mondes est pourtant une affaire finalement vieille comme le monde lui-même, puisque ses origines historiques remontent à la Grèce antique, c'est-à-dire au 5e siècle avant notre ère. C'est la première chose qu'on va voir au cours de ce diaporama. Ensuite, je vais vous montrer comment le 19e siècle a inventé les extraterrestres, en tout cas sous forme de représentation iconographique. Et puis, enfin, nous verrons quelle a été l'évolution de la représentation des extraterrestres au cours du 20e siècle. C'est d'ailleurs au cours du XXe siècle, dans les années 1960, qu'a été utilisé le terme d'extraterrestre, en tout cas sous sa forme substantivée, puisque auparavant, on parlait de martiens dans les années 50, par exemple, ou bien d'habitants des planètes au XIXe siècle. Alors, tout commence, en fait, on l'a dit, au Ve siècle avant notre ère, dans la Grèce antique, avec l'atomisme, qui est cette plus ancienne école de pensée scientifique. Eh bien, le philosophe Démocrite conçoit un monde qui est fait d'atomes et de vide. Alors, les atomes, ce sont donc ces particules insécables, invisibles, et le vide va permettre aux atomes d'interagir, de s'entrechoquer, et ainsi de constituer la matière. Selon le principe de causalité, les mêmes causes, à savoir donc l'agitation des atomes, devaient produire ailleurs les mêmes effets que ceux constatés ici-bas. Il y avait donc création de matière ailleurs et par voie de conséquence, d'autres mondes étaient possibles. Pour Épicure, au siècle suivant, il n'y avait nul obstacle, pensait-il, à un nombre infini de mondes. Et enfin, Lucrèce, lui-même disciple romain d'Épicure, au 1er siècle avant notre ère, ira encore plus loin, puisqu'il écrira dans De Natura Rerum, de la nature des choses, qui est le poème qui a fait connaître la philosophie atomiste au monde romain. Il écrira que ces autres mondes sont même pourvus de races d'hommes et de générations de bêtes sauvages différentes. Donc on voit bien que les atomistes de la Grèce antique ont conceptualisé les premiers la possibilité d'un autre monde. Ils ont pensé que ces autres mondes étaient en nombre infini. Et enfin, ils ont pensé que des formes de vie pouvaient se développer sur ces autres mondes. Donc on voit bien par là que c'est le tout début de cette controverse sur la pluralité des mondes qui débute et dont les découvertes actuelles des exoplanètes sont peut-être l'autre extrémité. En tout cas, ça débouche sur ces découvertes d'exoplanètes. Et qui sait si les exoplanètes ne vont pas peut-être permettre de confirmer la folle intuition de Lucrèce. Reste que l'atomisme sera éclipsé par une autre cosmologie qui est l'aristotélisme et qui va imposer l'idée d'un monde géocentrique pendant en fait 15 siècles jusqu'à Copernic, jusqu'à la Renaissance. Alors c'est donc Aristote, bien sûr, qui est l'initiateur de cette cosmologie. Elle est basée sur un doux principe, le principe du mouvement naturel et le principe du lieu naturel. Pour Aristote, les éléments les plus lourds, c'est-à-dire l'eau et la terre, devaient naturellement se diriger vers le centre du monde, lequel coïncidait, puisqu'il s'agit d'un système géocentrique, avec le centre de la Terre. Donc on peut dire que ces éléments les plus lourds tombaient, alors qu'à l'inverse, les éléments les plus légers, l'air et le feu, s'en éloignaient pour atteindre les régions supralunaires, lesquelles étaient confinées par la sphère des étoiles fixes. Vous voyez à l'image, la sphère extérieure, c'est une sphère d'étoiles, en fait là, bien sûr, un cercle, qui délimitait un monde parfaitement clos, ce monde aristotélicien géocentrique. Alors, ce monde, on le comprend bien, exclut de facto la possibilité d'un autre monde. C'est-à-dire qu'un autre monde, forcément, aurait été plus lourd que l'air, et donc il aurait dû fatalement, selon le principe du mouvement et du lieu naturel, se diriger vers la Terre, ce qui apparemment n'avait pas été constaté par Aristote. Et donc il en concluait que le monde d'Aristote, son monde, était un monde clos et unique. Donc on voit bien la différence qu'il y a entre atomisme et aristotélisme. Il y en a un qui est une cosmologie, on va dire, pluraliste, alors que l'autre exclut la possibilité d'un autre monde. Il y a une autre grande différence entre les deux conceptions. On voit bien que cette idée d'un monde clos, en fait, d'un monde unique, convient parfaitement bien à la religion, à l'Église, pour lequel donc, un monde unique convient bien avec un seul Dieu et avec une seule révélation, alors que l'atomisme, de son côté, est une conception athée, puisque le monde n'est pas créé par Dieu, il est créé par la rencontre fortuite entre des atomes. Alors donc, l'aristotélisme va s'imposer pendant, je l'ai dit, 15 siècles. Elle va donc de fait verrouiller le débat sur la pluralité des mondes. Et on voit que donc il y a différentes conceptions, toutes géocentriques, sauf bien sûr la dernière, celle proposée par Copernic, qui est une conception héliocentrique où le Soleil remplace la Terre au centre du monde. Alors, la conception de Copernic, lui, n'est pas particulièrement un partisan de l'idée des autres mondes, il ne s'exprime pas sur la question, mais par le simple fait, en fait, d'avoir rétrogradé la Terre dans la catégorie inférieure, celle des planètes, eh bien, d'autres pluralistes vont se dire, mais alors dans ce cas-là, les autres planètes sont peut-être elles aussi des terres, et donc des terres supports d'une ou plusieurs formes de vie. Et par contre, comme vous le voyez également sur la dernière image, le monde de Copernic, bien que héliocentrique, est toujours un monde qui est confiné par la sphère des étoiles fixes. C'est toujours l'idée d'un monde clos qui est celui de Copernic. Il faudra attendre encore 33 ans, c'est-à-dire en 1576, pour que Thomas Digges, qui est le premier copernicien, à avoir l'idée de faire éclater littéralement cette sphère des étoiles fixes. Donc désormais, les étoiles, pour la première fois, envahissent tout l'espace disponible. Et donc c'est, pour la première fois, l'idée également d'un infini qui est conceptualisé et qui sera en 1584 confirmé en quelque sorte par Giordano Bruno, pour lequel l'univers est infiniment infini. Et donc, au siècle suivant, il se passe quelque chose de tout à fait nouveau. Pour la première fois, en 1609, on va utiliser un instrument d'observation, un instrument technique, scientifique, pour observer la Lune. La Lune est le premier corps extraterrestre qui va être observé par Galilée. Vous vous rappelez peut-être, il y a 2 ans, on a fêté le 400e anniversaire de cet événement. Et donc Galilée pointe sa lunette astronomique qui venait d'être inventée. Il la pointe sur la Lune et qu'est-ce qu'il voit ? Eh bien, il voit des montagnes, il voit ce qui apparaît comme étant des mers, il voit des cratères, il voit des ombres portées. Bref, toute chose tout à fait similaire à la Terre. Et donc, la Lune n'est pas ce monde différent qui avait été brossé par Aristote. Évidemment, la Lune, sous Aristote, ne pouvait pas être ce monde lourd. Encore une fois, elle aurait dû se diriger dans la conception aristotélicienne vers la Terre, ce qui n'était pas le cas. Donc, la Lune était encore tout à fait différente, d'une autre nature que celle que perçoit Galilée. Et donc, pour la première fois, on voit que la Terre n'est pas le seul corps solide. On a la Lune qui correspond tout à fait à la Terre, en fait. Et donc, tout au long du XVIIe siècle, la Lune va exercer comme ça une sorte de pouvoir d'attraction sur les esprits. On va avoir différents auteurs qui vont se demander comment parvenir jusqu'à la Lune. Ils vont proposer différents moyens de locomotion, tous plus improbables, vous le voyez, les uns que les autres. Ainsi, par exemple, si à l'époque vous souhaitiez aller sur la Lune, eh bien, vous pouviez essayer la méthode proposée par Francis Godwin. C'était vous fixer en fait un harnais qui était emmené dans les airs par des oies sauvages. Un attelage d'oies sauvages là, qui emporte le visiteur. Vous pouviez également vous essayer, par exemple, à la ceinture à fioles chez Cyrano de Bergerac. Vous avez une ceinture avec un certain nombre de fioles, lesquelles contiennent de l'eau de rosée. Et cette eau de rosée, lorsqu'il y aura évaporation par les rayons solaires, eh bien, va emporter dans les airs notre intrépide voyageur. Voilà. Et en fait, le premier à avoir essayé de se déplacer sur la Lune, ça a été encore Kepler en 1634. On en parlait hier lors d'une table ronde ici même. Il publie donc à titre posthume en 1634 le Songe de Kepler, où il fait état d'un voyage en esprit sur la Lune. Et le but de ce voyage, c'est essentiellement, une fois encore, comme les autres auteurs, de brosser une astronomie copernicienne, bien sûr, mais d'établir l'essentielle similarité qu'il y a entre ces deux corps que sont la Terre et la Lune. Il montre, Kepler montre, comment, quelle serait l'astronomie, finalement, d'un observateur qui serait à la surface de la Lune, et il montre comment les éclipses sur la Lune sont dues à la Terre, comment les marées sur les prétendues mers célènes sont dues à la Terre. Voilà, donc c'est vraiment cette essentielle similarité entre les deux corps célestes qui est le plus important dans ce type de romans philosophiques, de songes ou de satires qui sont écrites et publiées tout au long, notamment du XVIIe siècle. Évidemment, pour tous ces auteurs, la Lune est habitée. Et puis, un peu plus tard, en 1686, Fontenelle n'a que 29 ans. On dit de lui qu'il mourra centenaire. N'a que 29 ans lorsqu'il publie sa première édition des Entretiens sur la pluralité des mondes. Fontenelle lui-même n'a rien inventé, mais il laissera dans l'histoire la marque d'un très grand vulgarisateur, puisque ses entretiens, très vite, en fait, sont traduits dans plusieurs langues européennes et font l'objet de différentes rééditions. Alors, les entretiens, peut-être vous les connaissez, c'est une suite en fait de conversations galantes sous le ciel étoilé avec Madame la Marquise. Bon, ça c'est pour la forme. C'est le prétexte à faire état d'une astronomie, à vulgariser l'astronomie de son époque, mais à aller beaucoup plus loin et à établir les bases d'une astronomie pluraliste, ce qui est vraiment novateur en fait. À la limite, plus que le texte, c'est cette magnifique gravure que vous voyez là, gravure dépliante, qui est encartée dans les éditions des entretiens, et qui présente, alors vous voyez le soleil, bon, et le système solaire reste au centre. Ça, c'est pour des raisons graphiques. On a les différentes planètes qui sont connues à l'époque, donc en fait de Mercure jusqu'à Saturne, qui est à peu près à 9 heures sur la gauche, avec entouré comme Jupiter avec leurs satellites respectifs. Mais vous avez tout autour une myriade d'autres étoiles de la galaxie. Et le fait nouveau, le grand fait nouveau, c'est que pour la première fois, ces étoiles sont accompagnées de leur cortège de planètes. Pour la première fois, on a une représentation tout à fait explicite de ces exoplanètes. Vous voyez, par exemple, elles contiennent une, deux, parfois trois, tout au milieu à droite à 15 heures. Il y a trois exoplanètes qui orbitent autour de cette lointaine étoile. Jusqu'à présent, c'est nouveau parce que jusqu'à présent, eh bien, les exoplanètes n'étaient pas représentées. Elles étaient simplement figurées par un simple tracé autour des étoiles. Donc là, c'est très important puisque 309 ans finalement avant leur découverte par la science, eh bien, on a ces représentations qui sont destinées à frapper les esprits. Ainsi donc, à la fin du XVIIe siècle, la voie est libre finalement pour les extraterrestres. On leur a construit des mondes et ils ne vont pas se priver très progressivement d'utiliser tout l'espace qu'on a mis ainsi à leur disposition. Au XVIIIe siècle, alors c'est difficile de le concevoir maintenant, mais en fait, la Terre n'était pas... Si l'exploration imaginaire, on l'a vu, de l'espace avait commencé, l'exploration réelle de la Terre n'était pas achevée. Il y avait ce qu'on appelle des terra incognita, des terres inconnues dans différentes régions d'Afrique, du Pacifique, dans les terres australes. Tant et si bien qu'un auteur comme Rétif de la Bretonne pouvait imaginer encore au XVIIe siècle des différentes espèces humaines imaginaires. Donc sur l'image de gauche, des espèces d'hommes-singes, et puis à l'image de droite en haut, des hommes-oiseaux. Ce qui est assez étonnant, vous allez le voir tout de suite, c'est que la dernière représentation imaginaire d'espèces humaines sur Terre est extrêmement, curieusement très proche de la toute première représentation d'extraterrestres, laquelle va être publiée juste 50 ans après. Regardez bien l'homme volant qui est en haut à gauche, il a les bras au ciel, les jambes repliées, il ressemble très étrangement à la première espèce d'extraterrestre représentée sur une gravure en 1835. Il s'agit d'un homme chauve-souris, donc baptisé du nom latin de Vespertilio Homo. Et alors cette histoire est un peu anecdotique, c'est en fait un journaliste américain, Richard Adams Locke, qui est intéressé par l'astronomie, et il souhaite en fait se moquer d'un petit groupe d'astronomes qui prétendaient avoir découvert sur la Lune différentes traces d'habitation, ainsi que les bâtiments colossaux des habitants de la Lune. Et donc, il voulait réaliser une satire, surenchérir sur cette idée-là, et il a publié ainsi une série d'articles dans le Sun de New York, pour faire état de la découverte sur la Lune grâce à un super télescope géant de 7 mètres d'une faune, d'une flore sélène et de plusieurs espèces de sélénites volants. Alors cette histoire était très bien montée, il y avait des éléments véridiques à l'intérieur, ce qui fait que le public, en fait, en lisant le Sun, a pensé, semble-t-il, c'est difficile de l'établir maintenant véritablement, mais a pensé que l'information, que c'était une information à prendre au premier degré. Et lorsqu'un peu plus tard, l'auteur qui n'avait pas signé son texte, Richard Adams Locke, a déclaré en être l'instigateur, eh bien, on a considéré que c'était un canular. En réalité, pour l'auteur, c'était une satire. Ça n'était ni une information, ni un canular, une satire avortée, dira-t-il. Mais toujours est-il que ça nous a permis d'avoir, au tout début, au début du 19e siècle, eh bien, cette première représentation d'un extraterrestre. Et puis, 3 ans plus tard, c'est en France que véritablement vont être inventés les extraterrestres avec un naturaliste qui s'appelle Pierre Boitard, qui publie dans le Musée des Familles, qui est un journal chrétien d'éducation, eh bien, un certain nombre d'articles publiés sur 2 ans pour, là aussi, vulgariser l'astronomie. Et puis, il se dit que ce serait en fait assez agréable de présenter les choses sous la forme d'un voyage imaginaire sur les différentes planètes du système solaire. Et c'est ce qu'il fait donc en nous rapportant, en quelque sorte, lors de chaque visite d'une planète, on a droit, dans le journal, à une représentation de l'habitant de chacune des planètes qu'il visite. Et donc, tout ça se fait sur le modèle de la tournée coloniale, puisqu'en fait, ce voyage sur les planètes, c'est la transposition, c'est en fait une tournée coloniale transposée dans l'espace. Le mode de déplacement, comme précédemment au XVIIe siècle, n'a évidemment que peu d'importance. En l'occurrence, c'est à dos d'un aérolithe qu'il se déplace de planète en planète. Et donc, il décrit sur Vénus, non, sur Mercure, à droite, eh bien, un homme, un habitant de Mercure, un mercurien primitif. Il évoque évidemment soit un homme sauvage, soit un homme primitif, préhistorique. Alors qu'à l'opposé, tout à fait à gauche de l'image, vous avez un habitant, alors en l'occurrence du Soleil, parce que oui, le Soleil est habité, sous une... en fait, on accède à la surface du Soleil sous l'épaisse couche en fait extrêmement brûlante. On y accède par les taches solaires et il y a un phénomène qui permet évidemment aux habitants du Soleil de ne pas être brûlés par la zone très chaude. Et donc, on a un soleilien qui est représenté macrocéphale, donc on l'imagine extrêmement intelligent. Et en réalité, sur cette image, vous avez à la fois le passé et le futur de l'homme qui se rejoignent ici, donc, aux deux extrémités de l'échelle évolutionniste. En effet, pour la première fois dans le débat sur la pluralité, c'est la prise en compte de l'évolutionnisme qui intervient avec Boitard. En 1838-40, on est entre Lamarck et entre Darwin. On imagine déjà donc les différentes espèces animales, on fait l'analogie entre ce qui se passe sur Terre, c'est-à-dire que les différentes espèces animales se sont développées en fonction de leur environnement, de leur milieu, elles se sont adaptées à leur milieu. Et Boitard est le premier qui va faire une analogie avec ce qui pourrait se passer sur les autres planètes. Et c'est ainsi donc qu'on a, vous voyez, une évolution qui est différente selon le type de planète qu'il visite. Et donc, avec l'évolutionnisme, c'est non seulement c'est la première fois donc que l'élément temps entre en ligne de compte. Le facteur temps va en fait transformer l'évolution. Avec l'évolutionnisme, va transformer le débat sur la pluralité. Pour la première fois, ça n'est plus simplement un voyage dans l'espace auquel on assiste, mais également à un voyage dans le temps. Et puis, comment ne pas parler pluralité des mondes sans évoquer évidemment Camille Flammarion, qui a été le grand astronome et peut-être surtout le grand vulgarisateur du XIXe siècle. L'un de ses ouvrages, c'était « La pluralité des mondes habités », qui est évidemment dont le titre fait écho et en même temps est un hommage à Fontenelle avec ses entretiens sur la pluralité des mondes. Pour Camille Flammarion, la planète Mars était une planète habitée. On voit à l'image sur cette gravure une représentation de la planète Mars qui est publiée donc dans l'un de ses très nombreux ouvrages. On voit donc que la végétation en fait est très élancée sur cette planète. Même à la limite, la géographie apparaît comme étant extrêmement élancée. Les Martiens, selon Camille Flammarion, sont dotés d'ailes. Là aussi, il y a une idée assez aérienne dans le développement. On voit que l'évolutionnisme justement commence à se développer. Et si justement les espèces animales supérieures, selon Camille Flammarion, sont munies d'ailes sur la planète Mars, eh bien probablement, ça n'est pas dit comme ça, mais probablement que c'est dû au fait que la planète Mars étant plus petite que la Terre, la gravité en fait y est plus faible, et donc toutes les espèces se développent, sont plus légères en quelque sorte, sont moins contraintes par la force de gravitation et se développent plus facilement dans une troisième dimension. Et puis, alors, on a vu tout à l'heure que le XVIIe siècle, ça a été finalement le siècle de la Lune. Eh bien, on peut dire que le XIXe sera celui de la planète Mars. On ne peut pas non plus ne pas évoquer toute la mythologie des canaux martiens. Un certain nombre d'astronomes avaient pointé la planète et dans leur oculaire avaient noté toute une série, en fait, de lignes apparemment droites qui ont été interprétées comme autant de canaux construits par les ingénieurs martiens en fait, pour détourner l'eau des pôles de façon à alimenter les zones équatoriales de la planète supposées en voie de désertification. Il faut dire qu'au même moment, sur la Terre, les ingénieurs terriens eux-mêmes étaient très affairés puisqu'ils venaient de construire le canal de Suez et il était question de construire celui de Panama. Voilà. Une autre image maintenant. Alors, le 19e siècle, c'est l'époque des voyages extraordinaires. Hein. On connaît Jules Verne, évidemment. Eh bien, on a ici un voyage extraordinaire qui nous est proposé par Georges Lefort et Henri de Graffigny. Eux-mêmes vont faire une tournée, c'est devenu vraiment une mode, une tournée des planètes du système solaire. Et c'est l'occasion, évidemment, de se rendre compte in situ de l'habitabilité des différentes planètes, et notamment ici à l'image de la planète Mars, où Lefort et de Graffigny confirment que les Martiens sont bien ailés. Et puis, un peu plus tard, donc, on a ici de magnifiques images destinées à la jeunesse. Alors, ça fait un petit peu écho à ce qui était dit dans le, très justement dans le petit film tout à l'heure, où parfois vous avez des anthropomorphes, comme ce magnifique sélénite, pour lequel il n'y a que finalement très très peu de détails qui nous distinguent de lui. Je vous laisse voir lesquels. Donc voilà, là une série de magnifiques images destinées à la jeunesse qui paraît à la toute fin du 19e siècle. Et puis on arrive alors à un monument, la guerre des mondes, qui paraît en 1898. Alors là, pour la toute première fois, eh bien, le sens de la visite s'inverse. Ça n'est plus nous qui allons chez eux, c'est eux qui viennent et qui viennent pour nous envahir. Les Martiens débarquent en effet dans la campagne britannique, et non pas, comme vous pourriez le penser, aux États-Unis, si vous avez vu les films, les adaptations hollywoodiennes. Donc ils débarquent dans la campagne britannique, dans le but, en fait, de trouver de nouvelles ressources alimentaires, en l'occurrence, le sang des humains. Mais en fait, là encore, contrairement aux adaptations hollywoodiennes qui en ont été faites, ça n'est de loin pas le thème principal, l'idée principale du roman de Herbert George Wells. En fait, il faut suivre la description minutieuse, il insiste là-dessus, qu'il fait du martien, pour comprendre en fait quelles sont les idées forces de Wells. Là, le martien qui apparaît complètement à l'image est en fait un martien macrocéphale, une sorte de poulpe. Il est réduit à un encéphale énorme et juste quelques bras tentaculaires qui sont en quelque sorte le prolongement du cerveau du martien. Eh bien, le martien de Wells, c'est en fait l'homme du futur qui est arrivé au stade ultime de son évolution. Il faut savoir que Wells avait étudié Darwin, et là aussi on a l'influence de l'évolutionnisme. L'idée de Wells, c'était de brosser qu'elle serait, de montrer qu'elle serait en fait le stade ultime de l'évolution humaine selon Darwin. Et donc on a ici une préfiguration de l'homme du futur. Et il y a une deuxième idée chez Wells qui est importante, c'est que cette idée des martiens qui nous envahissent est en fait une métaphore de l'homme blanc, du colon britannique qui en 50 ans s'est installé donc en Tasmanie, cette île au sud de l'Australie, et en moins de 50 ans les colons britanniques ont exterminé tous les habitants, tous les autochtones de Tasmanie. Et Wells conclut très justement par ceci, je cite, « Comment condamner le martien sans se condamner soi-même ? Comment condamner le martien qui vient nous exterminer sans se condamner soi-même, puisque nous-mêmes nous avons exterminé d'autres espèces, animales également, non seulement d'autres populations humaines en Tasmanie, mais également d'autres espèces animales comme le dodo, un exemple qui est cité là aussi par Wells, donc le dodo, cet oiseau de l'île Maurice qui a disparu très vite quand les colons blancs s'y sont installés. Ainsi donc, Wells s'affiche, on le voit, comme anticolonialiste, comme humaniste, comme visionnaire dans cette œuvre majeure, en fait, qui s'affiche, une fois encore, comme aux antipodes des adaptations hollywoodiennes. Et en fait, c'est une sorte aussi d'hommage, peut-être involontaire, je ne sais pas, à Pierre Boitard. 50 ans après Pierre Boitard, on voit que dans cette œuvre, le colonialisme et l'évolutionnisme jouent également un rôle très important et sont constitutifs donc de l'invention de l'extraterrestre moderne telle qu'il s'est déroulée au 19e siècle. Voilà, on va passer au 20e siècle. Voilà. Donc là, on a un martien, vous l'avez vu tout à l'heure, qui lui aussi donc, a subi les effets de l'évolution et de l'adaptation. On savait en 1924 que sur Mars, il y avait une atmosphère raréfiée. Et donc, l'illustrateur Frank Herpol, qui avait voulu établir le portrait un petit peu naturaliste du martien, avait tenu compte de l'évolution possible, de l'adaptation du martien à son milieu. Donc, il l'a doté d'énormes esgourdes de façon à pouvoir capter effectivement des ondes sonores qui se baladent difficilement donc dans une atmosphère raréfiée. Pour la même raison, eh bien, son thorax, en fait, est doté de poumons surdéveloppés de façon à pouvoir capter le peu d'oxygène disponible, là encore, dans une atmosphère extrêmement raréfiée. Et puis, eh bien, les canaux martiens n'ont peut-être pas encore complètement disparu, ce qui fait qu'il est doté de pattes palmées, de façon à pouvoir patauger dans quelques canaux résiduels. Et enfin, vous avez vu qu'il y a une utilisation assez particulière des tringles à rideaux sur la planète Mars, puisqu'ils servent à dézinguer des blocs de rochers. Alors, cette image est en fait assez intéressante. Moi, je l'appelle le proto-martien de Frank Herpol, parce que 15 ans après, Frank Herpol va remettre ça. Là, c'est un journal un petit peu de vulgarisation scientifique. Mais en même temps, dans ce journal-là, c'est le laboratoire qui a servi deux ans, à partir de 1926, deux ans plus tard, qui a servi à publier le tout premier pulp de science-fiction. Les pulp magazines, ce sont donc ces revues qui étaient publiées sur du papier bas de gamme, en fait, à base de pulpe de bois, comme leur nom l'indique. Hein. Et... Donc 15 ans après, Frank Herpol, cette fois dans un pulp de science-fiction, va se remettre à l'ouvrage et il propose cette évolution du martien. Donc vous voyez que c'est le même, il a évolué un petit peu comme sur Terre. Hein. En 15 ans, eh bien, la tringle à rideau s'est métamorphosée en un formidable fleuret certainement de nature atomique. Il est doté d'une ceinture qui permet de délivrer une eau de synthèse, des cartouches de nourriture, etc. Et puis, là, comme le précédent, le proto-martien, on le voit peut-être mal, mais en fait, ses yeux sont des yeux rétractiles, c'est-à-dire qu'en cas de grand froid martien, on sait que Mars est plus éloigné du Soleil que la Terre, il y fait plus froid, donc ses yeux sont dotés d'une capacité à se rétracter en cas de besoin. Et puis, ce qui est intéressant également sur cette image, c'est que, en fait, vous avez vu que les pattes palmées font place à des espèces de ventouses, munies d'ailleurs de soupapes, au cas où ils resteraient collés au dôme martien. Hein, on n'est jamais assez prudent. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est l'échelle qui est donnée par le visiteur, l'explorateur de la Terre. Le martien, encore une fois, est très élancé, beaucoup plus grand, n'a pas eu à subir l'effet de la gravitation comme sur Terre lors de son développement. Et Frank Herpol publie également en fait, la fiche technique, hein, où il explique justement toutes les différentes caractéristiques de son martien. Et puis, lui aussi, eh bien, se livre à cette tradition de la tournée des planètes. Et après la planète Mars, il retourne dans l'autre sens, direction le Soleil. Il s'occupe des planètes inférieures, Vénus et Mercure. Et là, chaque fois, eh bien, alors c'est un petit peu moins, entre guillemets, scientifique. Hein. Bon, le mercurien est doté d'une... il est carapacé comme un crustacé ou un insecte. Voilà. Donc, on a comme ça toute une série... De first contact, de premier contact avec un envoyé spécial de la Terre. Et puis, alors là, il se dirige dans l'autre sens de nouveau, les géantes gazeuses. Alors bon, sur Saturne, il n'ose pas trop faire atterrir l'envoyé de la Terre. Par contre, sur Jupiter, il a réussi à trouver apparemment une zone où on peut tranquillement discuter entre êtres d'une autre planète. Voilà. Et enfin, Neptune-Uranus, donc aux confins du système solaire, où il y a très très peu de lumière, très très peu de chaleur, et où la vie se déroule en fait dans le sous-sol de la planète. Alors je vous épargne, cette fois je ne vais pas me tromper, Pluton. Pluton, donc, qui n'est plus une planète depuis 2006, mais qui était encore une planète à l'époque. Après les planètes Cap... Après les planètes cap sur les satellites des planètes, voici deux des lieux qui, encore aujourd'hui, Titan et Europe, sont considérés comme étant des endroits du système solaire où la vie pourrait s'être développée en tant que vie microscopique bactérienne. Après, il ne faut pas oublier que Frank Herpol avait une formation en fait d'architecte et évidemment, il a utilisé ses talents, sa formation d'architecte pour dépeindre l'architecture qui serait celle d'une ville, en l'occurrence Métallis, donc qui serait sous la surface de la planète Uranus, puisqu'on a vu tout à l'heure à l'image précédente eh bien, que la vie se déroulait sous le sol de la planète. Pareil pour la cité Crystallis, cette fois de Io, qui est un satellite galiléen, donc de Jupiter. Et puis après avoir fait la tournée donc, des planètes, eh bien, il s'exerce un exercice de style assez particulier, puisqu'il s'est dit, eh bien, si moi j'ai essayé de les imaginer, pourquoi finalement c'est pas eux qui pourraient tout aussi bien nous imaginer. Et donc il imagine les Martiens en train de nous imaginer. Et donc grâce à un super télescope géant, on voit des scientifiques martiens qui sont affairés à l'oculaire. L'image est retransmise par un iPad géant au premier plan. Et on voit bien que les artistes martiens eux-mêmes imaginent eh bien, le terrien. Enfin, l'extra-martien plutôt, donc, comme étant à la fois capable de se mouvoir, en fait, dans l'eau que recouvre le globe terrestre, hein, puisque vu de l'espace, eh bien, c'est pas tellement la Terre, c'est plutôt la mer. Il imagine également plutôt bedonnant, puisqu'ils ont compris que la nourriture était délivrée à profusion sur cette planète. Et puis après, eh bien, il s'intéresse, il y a encore de la marge, aux planètes extrasolaires. Il se demande comment une technologie pourrait se développer autour d'une étoile, d'un système binaire, un système d'étoiles double ou triple. Et il imagine donc une énergie de type solaire qui pourrait être utilisée par ce type de civilisation. Donc là, on est 55 ans à peu près avant la découverte de la première exoplanète. Et donc, des illustrateurs comme Frank Herpol ont participé en fait à vulgariser cette idée d'exoplanète. Alors là, d'autres images issues justement de ces pulps dont on parlait tout à l'heure. On a le thème de l'enlèvement qui est apparu dans ces pulps de science-fiction. Alors là, il était un petit peu à contre-emploi. Habituellement, c'est les extraterrestres qui nous enlèvent. Et bien là, c'est l'inverse. Le motif est inversé. C'est un extraterrestre qui se fait enlever. Ça doit être le seul de la galaxie à qui il est arrivé pareil mésaventure. Et puis, les soucoupes volantes, donc, dans les années 20, commencent à faire leur apparition en couverture, là aussi, de pulps de science-fiction. Ils enlèvent des buildings, la tour Eiffel, on le voit un petit peu, pas très bien, c'est tout à fait au fond, en bas de l'écran, de l'image. Des soucoupes volantes qui, plus tard, en 1947, vont faire leur apparition dans la réalité, dans le vécu des témoins d'observation. Une fois qu'on a enlevé tous les canulars, il reste des gens qui, sincèrement, disent avoir vu des choses qui s'apparentent. Voilà. Là, on a affaire, c'est le premier témoin, en 1947, qui va faire une observation de phénomènes, des sortes de disques. Ce n'est pas des soucoupes volantes, hein, c'est l'espèce de croissant aplati. Et il va utiliser le vocable de soucoupe pour en fait décrire non pas la forme, mais la trajectoire de ces engins qui évoluent un petit peu comme lorsque l'on fait, on s'amuse avec un galet sur l'eau, on le fait ricocher sur l'eau. Il disait c'est comme une soucoupe si vous la faisiez ricocher sur l'eau. Donc c'est ce genre d'évolution qui était celle des engins qu'il a observés. Et n'empêche que le terme passera dans l'usage et les gens verront des soucoupes volantes que donc Kenneth Arnold, ce premier témoin, n'a ni vu ni décrite. Et après, les choses s'accélèrent. On commence à voir donc de plus en plus de soucoupes volantes. Il y a même des photos. Là, je vous présente un petit panel des rarissimes photos argentiques qui, dès les années 50, donc, ont fait leur apparition. Alors évidemment, là, il s'agit d'un faux réalisé non pas dans les Alpes italo-suisses, mais dans le jardin du photographe qui avait fait ce canular pour essayer d'avoir un accès à la presse. Il n'a pas réussi, malheureusement, en fait, à être journaliste. On aurait bien aimer voir ses futures réalisations. Donc les choses, voilà, il y a d'autres photographies. Ici, un extraterrestre, supposément entre deux agents du FBI. Les Martiens ne se privent pas eux-mêmes pour nous photographier. Il décide d'envahir la France en 1954. Je regarde un petit peu l'heure, il nous reste plus trop de temps. La destination privilégiée de leur voyage en 1954, c'est la France. Il y a des centaines d'observations de soucoupes volantes et de martiens qui sont signalés dans les campagnes et dans les voies ferrées. Il y a une sorte d'étrange mélange entre ruralité et science-fiction. C'est assez étrange. Ils deviennent de toutes les couleurs. Les petits hommes verts vont passer de la science-fiction à l'ufologie pour qualifier certaines apparitions donc d'humanoïdes, de martiens. Voilà une image charmante ici à gauche où un père de famille photographie sa fille dans la campagne anglaise et au développement il y a un cosmonaute qui apparaît. Tout de suite c'est associé à la terminologie des extraterrestres, ça fait partie maintenant de l'ufologie. Et puis d'autres images pour lesquelles eh bien, on n'a que très très peu de détails, c'est-à-dire que là on ne sait uniquement la date et le lieu pour cette photographie. Il y a tellement d'observations et de martiens, d'extraterrestres qui font leur apparition, qui se baladent sur Terre, qu'un journal comme La Suisse, dans les années 60-70, va les comptabiliser. Enfin, selon un prophète, donc il y aurait 6 millions d'extraterrestres sur la planète, c'est-à-dire probablement autant que d'habitants dans la Confédération helvétique à l'époque. Et puis voilà, donc dernière image, comment fabriquer soi-même son extraterrestre. Moi, ce qui m'intéresserait, si on pouvait un jour poser une question à un extraterrestre, je serais très curieux de savoir comment eux nous ont représentés et comparer nos conceptions imaginaires les représentant avec en fait les leurs, si bien sûr ils existent. Merci pour votre attention. Alors, je ne sais pas trop si on a le temps de prendre une question. Allez, une question. Avez-vous une question? Alors, une demi-question? Non, même pas. Bon, ben, comme on est en retard, c'est pas plus mal. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir ultérieurement. Mais on va céder la place à la prochaine table ronde. Encore merci à vous. Ouais, ah ouais. Il faut shooter un peu plus vite là.